qu'ils nous ont permis de vivre ici et de vivre avec d'autres frères et sœurs chrétiennes venant de d'autres horizons. Merci Seigneur. Comme j'ai dit, ça fait un mois que Cathy et moi, que nous sommes avec vous, et ça fait un mois que j'ai recommencé à prendre la voiture et à conduire en France. Je dois vous dire que conduire en France, ce n'est pas la même chose que de conduire chez moi aux États-Unis. D'abord, les routes sont plus larges. Je ne dis pas que les conducteurs américains sont plus sages parce que vous avez vu les films américains avec les poursuites et tout ça, mais en règle générale, les Français, les Américains sont très calmes au volant, très, très calmes, et ils sont très polis aussi. On a des croisements de route à quatre stops, et il m'est arrivé d'être là, à arriver au même moment que trois autres voitures, et tout le monde disait « non après vous, non après, non, non après vous ». Les gens sont très polis. Hein? Mais comme l'un de nos professeurs de français nous a dit un jour à Tours, les Français sont normalement les gens très calmes, jusqu'au moment où ils sont derrière le volant, et là tout le monde pense que c'est un conducteur de Formule 1. Et c'est un peu vrai, hein? Surtout sur l'autoroute. Et quand nous avons habité à Longjumeau, dans la banlieue parisienne, il y avait une auto-école, pas loin de chez nous, que le grand truc était les stages de conduite rapides en 8 jours. En 8 jours, vous pouvez apprendre à conduire. Je ne sais pas pour vous, mais ça me fait un peu peur, cette idée de rentrer dans une voiture avec quelqu'un qui n'a eu que 8 jours d'apprentissage à conduire. À vrai dire, ça me fait peur. Et je ne sais pas pour vous, mais et si j'ai des cheveux gris, et j'en ai dans la barbe et dans la tête, c'est parce que j'ai eu la grande joie d'apprendre à conduire à mes 5 filles. Vous vous imaginez? 5 filles, les apprendre à conduire? Oh là 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 là! J'ai invoqué le nom du Seigneur plus d'une fois en étant en voiture avec elle. Pourquoi? Parce qu'apprendre à conduire, ça prend plus que 8 jours, n'est-ce pas? Ça prend du temps. Même, je dirais, des années. Bien sûr, il faut connaître le code de la route, ça c'est certain. Mais bien conduire une voiture, d'abord, c'est très dangereux. Vous mettez la vie d'autrui en danger chaque fois que vous prenez le volant. Il faut de la patience, il faut de l'expérience, et il faut aussi un très, très bon instructeur, moniteur, pour bien apprendre. Dans une courte lettre dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul demande à un jeune pasteur d'insister sur certains points et d'insister auprès de ce jeune pasteur que les chrétiens qui sont sous sa responsabilité deviennent des bons conducteurs spirituels, que nous, les chrétiens, nous devons avoir une bonne conduite chrétienne. Et ce petit livre s'intitule « L'Épître de Paul à Tite », et nous allons l'ouvrir dans un instant. Donc, si vous avez votre Bible ou votre portable, vous les trouvez l'épître que Paul a écrit à son disciple Tite. Mais je vais vous donner quand même quelques mots d'introduction à cette lettre. Parce que, comme vous le savez, l'apôtre Paul a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Il a écrit au moins 10 des livres que nous avons, et peut-être même 11 ou 12. Certains sont très connus, comme l'Épître aux Romains ou 1er ou 2e Corinthiens, mais d'autres sont beaucoup moins connus, comme sa lettre à Philémon, et aussi cette lettre que nous allons ouvrir dans un instant, qu'il a écrite à Tite. Cette petite lettre de Paul a été écrite sans doute vers la fin de sa vie, Donc, l'apôtre Paul avait déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à partager avec son jeune ami. Et il considérait Tite comme son fils, son vrai fils, il dit dans le chapitre 1, verset 4. Pourquoi? Parce qu'ils partageaient la même foi en Jésus-Christ et ils ont travaillé ensemble pour fonder des églises. Et donc, Paul, à un moment donné, il a quitté l'île de Crète où il a travaillé avec Tite, mais il a laissé Tite là-bas pour s'occuper des églises, pour mettre en place des conseils d'église, pour veiller sur des problèmes. Et comme le bon père spirituel qu'il était, il a envoyé des lettres pour encourager ce jeune frère, ce jeune pasteur dans le ministère. Et donc, c'est de quelques versets, de quelques mots qu'il a envoyé à Tite que nous allons regarder dans un instant. Parce que l'apôtre Paul a insisté auprès de Tite de ne pas oublier les choses essentielles. Et il a souligné l'importance d'avoir une bonne conduite chrétienne. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. J'ai demandé à un frère de lire notre texte pour nous dans Tite chapitre 3 et on va lire des versets 1 à 3. C'est un peu long, donc accrochez-vous, réveillez-vous et y prêtez attention parce que c'est la parole de Dieu que nous allons entendre.
Francis? Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mettre la suite. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Amen.
Merci. Amen. Merci. Prions un instant. Seigneur notre Dieu, nous voilà devant ta parole. Viens nous parler, nous enseigner par ton Esprit Saint. Nous te demandons cela, Seigneur, humblement, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Je dirais que, comme chrétiens, nous oublions très vite de combien nous sommes revenus de loin pour devenir enfants de Dieu. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un ami qui, pendant longtemps, était quelqu'un qui fumait et un jour s'est arrêté. Et ces personnes-là sont souvent les plus intolérants quand quelqu'un à côté commence à fumer. Hein, parce qu'on oublie vite combien nous étions différents avant et que Dieu nous a changés maintenant. Nous avons la mémoire très courte, je dirais, du mal à nous rappeler combien nous sommes revenus de loin pour devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est pourquoi dans ce texte, Donc, gardez votre Bible ou votre téléphone ouvert pour garder ces versets. Dans le verset 3, l'apôtre Paul dit, « Car nous aussi, nous étions autrefois, et accrochez-vous bien, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. » Oh là là, c'est pas très jojo comme tableau, n'est-ce pas? Hein? Mais voilà comment nous étions avant de connaître la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Hein? Mais nous oublions tout ça très vite après avoir vécu dans la grâce de Dieu. Ici, Paul, il insiste et il rappelle à Tite que avant de connaître le Christ, nous avons été des gens, mais vraiment égarés, avec toutes sortes de désirs malsains, et que nous avons vécu dans la méchanceté et dans l'envie. Il faut savoir qu'à cette époque-là, que l'apôtre Paul a écrit cette lettre à Tite, sur l'île de Crète, les habitants avaient une très mauvaise réputation. Et nous voyons ça dans le premier chapitre, verset 12. À cette même époque, un historien grec a dit ceci concernant les Crétois. Il a dit qu'ils font toujours toutes sortes de rébellions, de meurtres et de fratricides. Oh là là! C'est pas quelque chose à mettre sur une affiche de vacances, n'est-ce pas? Qui veut passer du temps sur une telle île où il y a plein de rébellions, de meurtres et de fratricides? Hein? Apparemment, ces gens-là, ils n'avaient pas une très bonne réputation. Donc, Paul a adressé cette lettre à Tite et à ses fidèles qui étaient autrefois des bagarreurs, des gens très critiques, mais qui maintenant sont devenus chrétiens. Bien sûr, mes frères et sœurs, nous ici dans notre communauté, nous ne sommes pas des gens qui critiquent, n'est-ce pas? J'ai dit ça en rigolant. Parce que malheureusement, même nous les chrétiens, même nous les gens nés de nouveau, sauvés par la grâce, nous avons la critique facile. Nous sommes comme Lucky Luke qui peut tirer plus vite que son ombre. Nous sommes très vite à critiquer les gens, n'est-ce pas? Et même moi, c'est souvent mes premiers réflexes. Et après, le Saint-Esprit doit me reprendre en disant, « Ah, mais ce n'est pas à moi de critiquer ni de juger. » Mais c'est à ces chrétiens-là que l'apôtre Paul a écrit ce mot en disant, « N'oubliez pas là où vous étiez avant de devenir chrétien. » Que Dieu a fait vraiment des choses fantastiques dans votre vie. Et dans les versets 4 à 7 de notre texte, de notre passage, l'apôtre Paul dit, « Si vous êtes revenus de loin, si vous n'êtes plus comme il vient de décrire, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de bien. Ce n'est pas à cause de vos bonnes œuvres, mais c'est parce que Dieu nous a versé sur nous sa grâce, son amour, sa patience. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul souligne. Et il dit dans les versets 4 à 7 qu'il est question de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas quelqu'un très patient. Ma femme peut en témoigner. Mais par l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, je deviens un peu plus patient. J'arrive à critiquer un peu moins, à aimer un peu plus. Et ça, c'est ce que Paul souligne dans ses versets en disant que le Saint-Esprit est en train de nous transformer en quelque chose de meilleur. Et c'est par le baptême de du Saint-Esprit que nous sommes changés. Oh oui, dans la glace, dans le miroir, c'est le même visage, jour après jour. Mais intérieurement, le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre et de nous changer. Et dans le verset 4, il parle de l'amour de Dieu, qui n'est pas mérité, mais que Dieu déverse sur nous. Et donc, ce baptême ou ce bain dont nous avons passé, si vous êtes chrétien engagé, ce n'est pas l'eau du baptistère qui vous a nettoyé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vous a changé. Je suis en train de préparer le baptême de Guillaume et nous avons parlé hier du fait que ce n'est pas l'eau qui nous sauve, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et je lui ai dit, mais tu sais, Guillaume, le lendemain de ton baptême, tu peux te regarder dans la glace et tu vas voir la même personne physiquement. Mais intérieurement, le Saint-Esprit aurait déjà commencé à te changer en quelque chose d'autre. C'est fantastique, n'est-ce pas? Ce même Saint-Esprit qui fait grandir la foi et transforme notre vie, ça c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Je disais à Laurence et à Nicolas que je suis un charismatique non pratiquant parce que moi je crois au charisme. Et moi, je crois que le Saint-Esprit, si nous sommes des enfants de Dieu, il est toujours en train de nous changer, de nous rendre de plus en plus à l'image du Fils Jésus. Eh bien, j'ai intitulé cette méditation « Notre conduite chrétienne ». Eh bien, comment est-ce que nous devons nous conduire comme chrétiens? L'apôtre Paul, il brosse le portrait ici d'un chrétien qui vit selon le plan de Dieu et pas selon ses propres idées. Il dit dans le verset 1 de ce texte, il faut que nous suivions nos dirigeants spirituels. Oh, ça, c'est pas toujours facile. Hein? Bien sûr, il ne faut pas les suivre aveuglement. Il faut mettre tout ce que nos conducteurs spirituels nous disent. Il faut examiner ça selon la parole de Dieu. Mais Dieu nous donne des personnes, des conducteurs spirituels pour nous aider à comprendre sa volonté. Et nous devons les écouter. Aristote a dit que l'homme est un animal politique. Il a besoin de vivre en groupe pour réaliser son potentiel. Et moi, je dirais que nous, les chrétiens, nous sommes des gens qui ont besoin de vivre en groupe, de vivre dans une communauté d'autres croyants pour nous aider à grandir aussi dans la foi. Et heureusement, Dieu nous donne des conducteurs spirituels pour nous aider, pour nous conseiller. Dans le verset 2, il dit que, oh là là, et ça c'est difficile pour moi, qu'il ne faut médire de personne. Il ne faut pas avoir la gâchette facile à ce qui concerne les critiques. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas toujours facile. Hein? Même comme chrétien, la critique est facile, le sarcasme vient en abondance. Mais Dieu nous donne la possibilité aussi de modérer nos pensées et nos paroles, d'être des chrétiens pacifiques, pleins de douceur envers tous. Imaginons pour un instant une église où les gens ne critiquent jamais. Free une autre idée pour nous, comme chrétiens, que nous soyons des gens qui vivent dans la paix, dans la douceur, qui ne soupçonnent pas le mal, mais qui attendent le meilleur pour les autres. D'être pacifique, modéré, plein de douceur, ah oui, moi je veux une église comme ça. Mais ça commence avec moi. Ah oui, ça commence avec moi. Je ne peux pas attendre de vous ce que moi, je ne suis pas prêt à faire. Dans le verset 9, Paul dit que Dieu nous demande d'éviter les discussions stupides, les discussions inutiles. Mais malheureusement, les églises, et je dirais même notre église ici, est peuplée de gens qui s'emballent facilement sur des études de toutes sortes. Il m'est arrivé d'être dans une église où quelqu'un était fasciné par tout ce qui est chiffres bibliques. Et souvent, il essayait de m'expliquer telle chose va arriver à tel moment dans l'histoire parce que tout est écrit dans la Bible. Et il faut tout simplement étudier les chiffres et faire des tableaux et rentrer tout ça dans l'ordinateur. Et on peut connaître exactement le moment où telle et telle chose va arriver. Et pourtant, c'est Jésus même qui a dit que lui, il ne sait pas à quel moment il va revenir. Il ne sait pas. Et donc, ce genre d'études, c'est peut-être une grande perte de temps, finalement. Sans parler des sites sur le web où vous pouvez être attiré, séduit et finalement plongé dans les trous qui n'ont pas de fond. Parce que ces choses-là sont séduisantes. Et donc, l'apôtre Paul dit ici, il faut éviter ce genre de discussion d'entreprise. Et il faut rester sur l'essentiel, c'est-à-dire d'être formé par l'œuvre du Saint-Esprit qui est en chacun de nous pour nous aider à ressembler davantage jour après jour notre Seigneur Jésus-Christ. Notez bien que dans ces versets, c'est dommage qu'on n'a pas le temps, on ne fait pas une étude biblique, mais de regarder chaque verset parce que l'apôtre Paul met l'accent sur la qualité de notre vie de chrétienne et aussi sur nos actions. Les deux, il faut les deux. La bonne conduite chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez vu ces autocollants en forme de poisson que certains chrétiens mettent sur leur voiture? Dans une église où j'étais pasteur en France avant, un bon nombre de membres de cette communauté avaient ces poissons sur leur voiture. Et certains ont commencé à me poser la question, « Mais pasteur, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis une poisson sur ta voiture pour témoigner de ta foi en Jésus-Christ, ton engagement ?» Et je n'avais pas une bonne réponse. Et donc, un jour, j'ai cédé un peu à leur question et j'ai mis une poisson derrière ma voiture pour témoigner de mon appartenance au Seigneur. La semaine suivante, bam, quelqu'un m'est rentré par derrière et a complètement détruit cette partie de ma voiture où se trouvait la poisson. J'ai commencé à prier. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire quelque chose? Peut-être ma conduite n'est pas très chrétienne. Et donc, tu ne voulais pas que je témoigne de mon appartenance à toi en mettant une poisson sur ma voiture et ensuite en train de conduire comme, disons, un incroyant, pour ne pas dire d'autres choses. Il suffit de dire que une fois réparé, je n'ai pas remis une poisson sur ma voiture. parce que j'avais justement honte que peut-être ma façon de conduire ma voiture n'était pas très chrétienne. Mais plus important encore, quelle est notre façon de conduire notre vie? Est-ce que cela témoigne de notre appartenance à Jésus? Ah, voilà peut-être une meilleure question. Voilà peut-être la question de ce matin. Pour être un bon conducteur spirituel de notre vie, eh bien, il faut avoir un très bon moniteur, n'est-ce pas? Si mes filles ne conduisent pas toutes très bien, c'est peut-être parce que leur moniteur n'était pas très doué, c'est-à-dire moi. Mais qui est notre instructeur spirituel? Mais c'est Jésus. Et lui, il est sans faille. Il est le meilleur. Et il veut nous enseigner comment nous devons conduire notre vie. Oh, n'oubliez pas le code de la route. Vous pouvez deviner, n'est-ce pas? Quel est notre code de la route comme chrétien? Mais c'est la parole de Dieu. Et j'espère que vous la connaissez bien. L'une de mes filles, notre dernière fille, quand le moment est venu pour passer son permis, Cathy et moi, on a payé les quelques sous pour passer l'examen écrit sur la côte de la route, mais elle n'a pas eu. Une première fois, une deuxième fois, troisième fois, même peut-être une quatrième fois, je ne me rappelle pas. Elle n'a pas eu. Et donc, finalement, on lui a dit, mais chérie, si tu n'étudies pas le livre, tu ne vas jamais réussir l'examen. Et donc, à partir de maintenant, si tu veux avoir ton permis, si tu veux passer cette partie du code de la route, c'est à toi de payer. Mais devinez quoi? Elle a bien étudié le code de la route et elle a passé l'examen sans problème. Elle a réussi. Elle n'est pas très bonne conductrice d'ailleurs parce que c'est moi qui l'ai appris à conduire, mais elle a passé le code de la route quand même. Et nous aussi, nous devons connaître cette code pour la route de notre vie à fond, quotidiennement. Mes chers amis, comme Église, nous devons devenir de bons conducteurs spirituels. C'est l'apôtre Paul qui nous encourage dans ce chapitre 3. Il nous dit que nous sommes des gens qui sont revenus de loin. Nous ne sommes pas comme nous étions avant. Mais l'œuvre du Saint-Esprit continue en nous. Et nous devons continuer à grandir dans la foi. Parce que je vais vous dire une chose, depuis un mois, je conduis de nouveau en France. Et chaque fois que je rentre dans la voiture, je dis, Seigneur, protège-moi. Aide-moi à ne pas faire des bêtises. Mais aussi, tous les gens qui vont me doubler, qui vont griller des feux rouges, qui vont me klaxonner parce que je ne roule qu'à 50, dans une zone de 50, et eux, ils veulent rouler à 90. Seigneur, protège-moi, parce qu'en France, on a besoin de bons conducteurs, n'est-ce pas? Mais Dieu a besoin de nous comme bons conducteurs spirituels et chrétiens. Parce que c'est par notre façon de vivre que nous témoignons vraiment des vies changées pour Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Qui a besoin Il y a combien de conducteurs de voitures ici? Levez la main. Ah oui, beaucoup, OK. Mais si vous êtes ici ce matin, c'est aussi parce que vous êtes conducteur de votre vie spirituelle. Et Dieu a besoin de nous pour être de très bons conducteurs spirituels. Parce que pas avec l'autocollant poisson, mais dans notre vie de tous les jours, avec des gens qui ne sont pas encore membres de la famille de Dieu, Dieu a besoin de nous. Prions. Notre Dieu, merci pour ce culte béni que tu nous as donné ce matin, pour ce moment de louange et de partage. Et Seigneur, merci pour ce défi que tu nous donnes de vivre notre vie pour toi d'une meilleure façon, jour après jour, en nous rappelant que c'est toi que nous pouvons honorer dans notre façon de marcher dans tes voies. Et Seigneur, que les paroles de Psaume 119, verset 1, soient notre bénédiction. Heureux ceux qui, dont la conduite est intègre, et ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Tu conduis bien.
J'espère. Bon, j'ai 12 points. Mais est-ce que c'est parce que je conduis bien? Ça, je ne sais pas. Voilà, merci Thi. Merci pour ces paroles. Et pour cette semaine, je vous invite à retenir ce verset de Tite, chapitre 3, le verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous permette de vivre une semaine bénie, entourée par sa présence. Bonne semaine à tous et restez pour le repas. J'espère que